J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, représentés par Eve Bazaïba, respectivement président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, et secrétaire général du Mouvement des Libérations du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba, se sont rencontrés le jeudi 9 août dernier pour discuter de la possibilité de présenter un candidat commun de l'opposition à la présidentielle de cette année. Entre-temps, l'opposition congolaise, toutes tendances confondues, pose des préalables pour aller à des élections crédibles, transparentes et inclusives dans le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils l'ont fait savoir le lundi 13 août dernier au terme d'une réunion politique au siège du MLC. Comment commentez-vous cette actualité ? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute équipe est là pour vous tenir compagnie tout au long de ces 57 minutes interactives. Pierre Lamegi est à la réalisation ensemble avec Nico Okalambay, sous la supervision de Martin et Sebou Jagoué. Noté qu'à Lengoy assure la mise en onde de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de l'intérêt que vous accordez à nos débats. Vous êtes plus nombreux à avoir lu et commenté ces sujets depuis hier sur notre page Facebook. Nous recevons pour vous Vital Kamerhe, président de l'UNC, avec nous ici. Bonjour, monsieur Vital.
Bonjour, monsieur J.R. Lungembo.
Alors, nous rappelons également que vous êtes un ancien président de l'Assemblée nationale. Voilà, donc nous vous recevons parce que vous êtes un des ténors de l'opposition. L'actualité politique est dominée par la désignation du dauphin de Joseph Kabila, président de la République. Ce n'est donc plus un secret, le chef de l'État ne briguera pas un troisième mandat. Certaines voix s'élèvent déjà, et à l'opposition et à la majorité, et même la société civile, tous affirment que il s'agit là d'une victoire du peuple congolais. Quelle est votre opinion?
Oui, c'est vrai, c'est une victoire du peuple congolais, parce que nous tous, quand nous briguons des postes de responsabilité au sommet de l'État, nous devons intérioriser une chose. Et c'est une nouvelle culture que nous voulons inculquer à notre peuple, hein, et surtout aux leaders. Nous devons travailler pour le peuple. Et c'est la victoire du peuple, c'est vrai, mais nous devons aussi saluer les gestes de grandeur posés par le président de la République. Il a 46 ans. Depuis 1960, nous avons connu l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous avons connu le coup d'État contre Joseph Kasavubu, qui est mort finalement à Boma. Nous avons connu l'arrivée de l'AFDEL ici, qui a défenestré le président Mobutu, qui est allé mourir, et son corps se trouve encore au Maroc jusqu'à ce jour. Nous avons connu l'assassinat de Laurent Désiré Kabila dans son bureau. Et je pense que, pour la première fois, après 58 ans, nous sommes en passe d'avoir un ex-président de la République en vue. Donc, pour nous, nous pensons que c'est un grand pas dans la bonne direction, mais c'est pas, ne suffit pas. Mais nous devons prendre acte de cela, comme nous l'avons fait dans notre communiqué la fois passée. C'était là le combat principal, l'alternance. Nous voulions faire les élections dans le respect de l'article 70 de la Constitution. Maintenant que le président de la République l'a respecté, nous disons vaut mieux tard que jamais, puisqu'il aurait pu le faire depuis 2016 pour rester dans les délais constitutionnels. Mais nous n'allons pas passer notre temps à pleurnicher. En 2014, nous avons mené la bataille contre l'ONIP. En 2015, nous avons mené la bataille victorieuse contre les projets de loi qui conditionnaient la tenue des élections par le recensement sur l'ensemble du territoire national, dont le peuple n'a pas gagné une seule fois. Ça, c'est la deuxième victoire. Et nous disons, c'est la victoire du peuple. Finalement, c'est la victoire de tout le monde, y compris celui qui a accepté, sans qu'on tire un seul coup de feu et sans qu'il y ait de rébellion, ni de coup d'État, d'accepter, de dire, bon, écoutez, allons aux élections, mais sans moi, dans le respect de la Constitution. C'est cela aussi, faire l'opposition constructive. Pas passer tout le temps à dire, bon, tout ce que fait l'autre est mauvais, donc on ne peut pas saluer une seule fois un geste positif.
Est-ce que c'était une surprise pour l'opposition?
Disons, quand nous menons un combat, nous le menons avec foi et détermination. Et nous ne ménageons aucun effort. Et nous savions que nous allons y arriver. Avec tout ce que nous avons fait en 2015 d'abord, où le peuple a démontré qu'il est capable d'assumer son destin, ce que nous avons fait ensemble avec l'Église catholique, les trois marches où nous avons été présents, a démontré suffisamment que le peuple congolais était déterminé pour assumer son destin, le prendre en main. Et donc quand un peuple s'élève, il n'y a aucune armée qui peut être plus puissante que le peuple. Et nous ne devons pas croiser les bras. Ça c'est un grand pas. Et je dis encore une fois, l'objectif, c'est le 23 décembre 2018.
Et quel est le deuxième pas?
Le deuxième pas, nous devons ici parler à nos référents, aux fondamentaux et surtout aux instruments juridiques. Nous avons la Constitution de la République démocratique du Congo, nous avons l'accord de la Saint-Sylvestre, mais nous avons les calendriers électoraux aussi de la CENI. Nous avons des dates phares que nous devons respecter, mais nous savons que pour organiser les élections, quand la Constitution est respectée, il y a le calendrier, mais il y a aussi la transparence et la crédibilité de ces élections. Nous avons souligné lors de notre congrès de l'Union pour la Nation Congolaise que nous avions quatre points qui nous inquiétaient. Le premier, c'était la machine à voter. Nous allons en parler. Le deuxième, c'était le fichier électoral triffé, selon la CENI, de 6 millions de personnes enrôlées sans empreinte digitale. Mais selon nous, de l'opposition, nous parlons de 10 millions. Que ça soit 15% ou 24%, une élection à un seul tour, quelqu'un qui a ce pourcentage-là comme réservoir peut gagner les élections tout de suite et maintenant. Nous avions un troisième point, c'était l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et au centre, puisque ça pourrait toujours refaire surface et plomber tous les processus. Le quatrième, enfin, il vient d'être résolu, était le plus important, c'était l'attitude du président de la République, sera candidat ou pas candidat. Maintenant que tout cela est connu, qu'est-ce que nous faisons des trois points qui restent quand même des points très importants? À cela, nous devons ajouter l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Quand nous disons l'application globale de l'accord de la Saint-Sylvestre, nous faisons allusion surtout aux mesures de décrispation et à tout ce qui concerne les droits et libertés publiques. Les mesures de décrispation, nous avons des cas emblématiques. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question. Le président de la République, après avoir accepté lui-même de ne pas être candidat, est-ce qu'il lui est plus difficile aujourd'hui de dire que Jean-Claude Muyambo, Diomi Ndongala, Firmé Yangambi et tous les autres qui croupissent aujourd'hui en prison, est-ce que c'est difficile de dire je vais jusqu'au bout, je libère ces gens-là? Est-ce que ces gens-là constituent un danger aujourd'hui vraiment pour la République? Nous disons aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux au niveau de l'opposition. Nous ne pouvons pas être à Kinshasa ou à l'intérieur du pays pendant qu'il y a un fils de ce pays, membre de l'opposition, qui ne peut pas rentrer au pays et qui n'a pas eu l'occasion de présenter sa candidature. Je fais allusion à Moïse Katumbi. Donc moi, je me dis, nous sommes en train de montrer à la face du monde comme si les Congolais s'étaient entendus pour ne jamais s'entendre. C'est pourquoi ici, je voudrais interpeller le président de la République pour lui dire, il a fait un grand pas dans la bonne direction. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête en si bon chemin. Il peut et il sera agrandi. Aujourd'hui, s'il dit que Moïse Katumbi, qui rentre comme tous les Congolais, je ne suis pas candidat, moi et le président Kabila, et que les Diomi Ndongala et Jean-Claude Muyambo, tous les autres soient libérés, et je crois que ce serait quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais même parler des handicapés, tous ceux qui avaient été arrêtés, les amis, les parents qui sont en prison depuis plus de 15 ans.
Alors, le sujet important que nous avions voulu partager avec vous, Monsieur Vital Kamerhe, tout a commencé à la cathédrale Notre-Dame de Lingala. Vous vous êtes retrouvé avec Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. L'idée d'une candidature commune a germé, bien entendu, ces jours-là. Et vous avez eu tous les trois encore l'occasion d'en discuter le jeudi 9 août dernier à GB, je l'ai dit en sommaire. Et ces discussions, vous les avez étendues à un grand éventail avec d'autres candidats à président de l'opposition avant-hier au siège du MLC. Pensez-vous que cette fois-ci, la population ne sera pas déçue?
La population ne sera pas déçue pour la bonne et simple raison que cette idée n'a pas germé, comme vous l'avez dit, à l'église Notre-Dame de Lingala. Nous avons parlé de la candidature commune depuis les élections de 2011. Nous n'allons pas revenir ici pour dire qui avait raison, qui avait tort. Nous avons déjà, après la proclamation des élections que nous avons contestées de 2011, élaboré un plan pour dire nous sentons que nous risquons d'avoir des problèmes à l'horizon très proche. Et c'est comme ça que nous avons proposé qu'on puisse restructurer la CENI, qu'on puisse instaurer les trois ordres judiciaires, tout un tas de propositions que nous avons faites à l'époque. Mais par la suite, nous avons mené les combats, comme je l'avais dit, contre l'Office national d'identification de la population, en ce que cet office était créé à un moment tout à fait suspect. On voulait nous amener dans une élection après le recensement de tous les Congolais. Quand on sait que pour recenser les agents de l'administration publique, il a fallu, et jusqu'à présent on n'a pas fini, on est dans, à la dixième année, on n'a pas terminé, mais tous les Congolais on fera combien d'années? Et je crois que aujourd'hui, nous devons dire que plus que jamais, nous avons une grande responsabilité devant le peuple congolais. Et le mot d'ordre, nous l'avons répété, Jean-Pierre Bemba et moi-même, et nous avons demandé à Félix Tshisekedi, à Katumbi, et tous les autres, il ne faut pas les négliger, Fayulu est candidat, Matungulu est candidat. Le mot d'ordre, c'est peut-être la flexibilité. Et je dois être honnête ici pour dire que je suis vif, Fayulu l'a dit aussi. Donc si nous disons, c'est moi et personne d'autre, alors nous allons être comme des droites parallèles, qui ne vont jamais se rencontrer. Mais si nous y allons en disant, nous sommes tout à fait flexibles, et nous mettons en place un critérium très simple, en partant déjà de ce qui est dans la Constitution, et ensuite nous pouvons nous regarder dans les yeux, face aux défis qui sont devant nous, puisque nous voulons devenir président de la République. Nous voulons devenir président de l'Assemblée nationale, du Sénat, Premier ministre, gouverneur de province, bourgmestre, tout ce que vous voulez. C'est pour améliorer les vécus quotidiens des Congolais, lui redonner espoir et l'amener dans les rendez-vous de l'espérance. Et là, on va parler de l'expérience, de la formation, des aptitudes de chacun de nous, de l'intégrité.
Voilà. Tout ce que alors, deux petites questions avant d'ouvrir les standards et accueillir les auditeurs qui veulent à tout prix intervenir dans cette émission. Vous avez piloté, si ma mémoire est très bonne, l'idée du Conseil pour la paix à RDC de fin des années 90. Vous avez occupé plusieurs fonctions à un niveau très élevé de la République, pour ne pas parler de l'ancien président de l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre votre expertise politique à la réussite de cette démarche d'une candidature commune?
Oui, c'est très difficile de parler de soi-même, hein, mais je crois que quand Kofi Olomide et tous les autres musiciens que je remercie en passant, Fali, Ferré, tous les autres qui m'ont donné le nom de pacificateur, ce n'était pas à l'occasion de rien. Nous avons travaillé dans le processus de Lusaka qui n'était pas très facile, le pays était occupé. On a travaillé jusqu'à l'aboutissement des travaux de Sun City pour avoir l'accord global inclusif. Nous avons signé avec le président Museveni en Ouganda, à Luanda, tout comme le président Kagame à Pretoria, les accords qui ont permis le Congo d'avoir la transition 1+4 qui a ouvert la voie aux élections. Mais comme chez nous, c'est toujours un éternel recommencement, nous pensons qu'aujourd'hui, nous allons tracer une ligne horizontale et aller dans la bonne direction, que le Congo décolle. Puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre notre expertise pour que ce pays qui a tout pour être un des cinq grands pays du monde puisse retrouver
sa place. On a toujours taxé Kamere d'être traître, si nous nous référons au dialogue de l'UIA et aussi par plusieurs fois les élections de 2011 qui ne voulaient pas tendre la main à Tshisekedi.
Non, je ne peux pas en rougir, puisque Nelson Mandela, quand il a quitté la prison, l'avait traité aussi de traître. Vous savez, quand vous êtes un leader, vous devez être guidé par des valeurs. Il ne faut pas chercher le populisme à tout moment. Vous devez regarder ce qui est bon pour le peuple. Même si le peuple ne vous comprend pas tout de suite, il peut vous comprendre plus tard. Nelson Mandela quittant la prison, vous savez que les Zoulous sont plus nombreux que les Blancs. Les Zoulous voulaient absolument que Mandela puisse en découdre avec les Blancs. Mais il a regardé les rapports de force, il a dit je vais tuer mon peuple pour rien. Il a accepté d'être vice-président de son bureau. Et quand vous vous humiliez, Dieu vous élève, il est devenu président et le bureau est devenu vice-président. Et pour la première fois dans l'histoire, et le bureau et la victime ont eu le prix Nobel. C'est extraordinaire. Donc, nous avons été à la cité de l'Union africaine. On nous a taxé de tous les maux parce que nous avons signé avec les gens de la majorité présidentielle. Nous avons eu tort de comprendre les totaux. Parce que tout le monde disait le 31 décembre 2016, tout va s'arrêter. Et moi, je disais que ça ne va pas s'arrêter. Nous risquons de brûler le pays pour rien. Gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper. Il faut avoir le courage de dire, là, si nous ne nous parlons pas entre nous, Congolais, nous allons nous entretuer. Mais tout le monde nous a rejoints finalement à la CENCO. Et je voudrais poser la question à tout le monde pour mettre fin, une fois pour toutes, à ces débats qui ne concernent même pas le peuple congolais, puisque le peuple partout où je passe, il dit, vous avez eu le courage, vous êtes un visionnaire. Mais quand nous avons signé à la CENCO, nous avons signé avec qui? C'est avec les Chadari, avec les Lumanu, avec les Kimbuta, avec les mêmes avec lesquels nous avions signé à la Cité de l'Union africaine. Et là, je peux encore poser une deuxième question. Entre les calendriers de la CENCO, qui prévoyait les élections au 31 décembre 2017, et les calendriers de la Cité de l'Union africaine que nous avions obtenu difficilement, et les élections le 29 avril 2017, quel est finalement le calendrier qui était le meilleur? Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une bonne direction. C'est pas le moment de juger qui a fait quoi. Il n'y a pas d'un côté les anges et de l'autre côté les diables. Nous sommes tous fautifs et nous devons nous repentir devant Dieu.
On a l'impression que Kamere est très rassuré, et surtout parce qu'on ne peut pas parler des sondages, mais au moins les sondages populaires organisés par nos confrères du Top Congo vous placent quand même en bonne position. C'est ce qui fait aujourd'hui votre orgueil, que la population est avec vous?
Non, il faut être humble en toutes circonstances. Et tant que le peuple n'a pas dit son dernier mot, il faut garder les pieds sur terre. Les sondages sont les sondages, et remercie ceux qui ont... et m'ont placé à ce niveau-là. Ça donne quand même un petit motif de fierté, mais ce ne sont pas là les élections. Nous attendons les élections et l'INC est structuré, l'INC est partout, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et
voilà, on va y revenir, le temps d'accueillir les auditeurs qui veulent à tout prix partager avec nous ces moments d'échange citoyen. Nous rappelons d'ailleurs nos moyens de contact, d'abord le 09 97 06 6330 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen qui reçoit pour vous Vital Kamere, président de l'UNC. Alain Bolodjoa, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alain, vous êtes avec nous? Alain Bolodjoa, vous êtes avec nous en ligne. Alors on prend Tingo.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde, bonjour à M. Vital Kamere.
Voilà, Alain Bolodjoa, quel est votre commentaire par rapport à cette démarche de l'opposition pour une candidature commune?
Bon, premièrement, je tiens à féliciter M. Kamere, qui a montré une certaine grandeur, reconnaissant à Joseph Kabila ce courage-là d'avoir déçu les Ouméniste. Et j'estime, de mon point de vue, il apparaît comme un modèle en termes de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons que l'opposition n'est pas là justement pour ne pas croire à tout ce que les autres font, mais critiquer pour l'intérêt de la République. Et c'est un signe fort de sa part. Moi, j'estime de mon point de vue que le candidat commun, pour ne pas dire unique comme les autres le disent, est quand même une bonne chose par le simple fait que ça va permettre à ce que nous puissions confronter d'une part l'opposition et la majorité et faire en sorte que même au niveau de l'organisation des élections, que nous ayons moins de témoins dans le bureau de vote. C'est une bonne chose dans ce sens-là. Mais nous ne sommes pas obligés d'avoir deux candidats en lice. Nous ne sommes pas obligés d'avoir que deux personnes qui vont concourir ou changer pour nous amener dans une nouvelle gouvernance. Nous pouvons en avoir plus, mais ce qui importe, c'est d'abord en termes des idées fortes. Mmh. Parce que lorsque nous prenons l'opposition aujourd'hui, M. Kamer, il ne réfléchit pas de la même manière que M. Fayoulou, par exemple. Encore moins par rapport à M. Félix Tshisekedi. Et tout sont des idées, et ces idées sont portées par leur parti. Ce qui importe, c'est d'abord avoir une projection en termes de gouvernance. C'est-à-dire, au lieu de chercher d'abord à avoir un candidat commun, qui commence d'abord à avoir un programme commun. C'est-à-dire avoir une vision de gouvernance, et sur base de ces visions de gouvernance qui vont fixer maintenant le profil.
Oui,
parce
oui,
que s'ils commencent par avoir...
Oui, allez-y.
Oui, mais si on doit commencer à avoir des candidats communs et que ces candidats ne répondent pas au profil fixé par le programme de gouvernance, eh bien nous risquons d'avoir quelqu'un justement parce qu'il est populaire ou tout simplement parce qu'il a le moyen de battre campagne, mais au final cette personne ne répondra pas au profil. Et ça risque aussi d'empiéter ou de mettre en mal le fonctionnement.
Oui, Alain, que pensez-vous pas, oui, comment que répondez-vous à ceux qui estiment que l'opposition doit devoir attendre que la liste définitive des candidats à la présidentielle soit publiée par la CENI afin d'engager ces genres de discussions?
Bon, ceux qui ont dit ça se basent certainement sur certaines informations qu'ils ont pu recueillir. Parce que ce qui est vrai, tous ceux qui ont postulé jusque-là, ne sont pas des saints. Certains ont des problèmes avec la justice. D'autres aussi ne remplissant pas les critères, se disent non, voilà, peut-être que nous serons exclus de la course. Alors attendons jusqu'à la fin. Mais ce qui est quand même déplorable, bien que M. Kamere n'a pas pu le dire, c'est que ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de débat. En 2006, il y a eu un débat entre M. Jean-Pierre Bemba et les autres membres de l'opposition. Et même Tshisekedi qui a refusé de soutenir, officiellement refusé de soutenir Bemba tout simplement parce que lui n'était pas candidat. C'est-à-dire, moi j'estime de mon point de vue que connaissant les acteurs et le système de jeu de la politique congolaise, je ne vois pas les opposants être en mesure de transcender leurs faiblesses et d'accepter par exemple que M. Kamere soit le candidat. Hein? Nous avons suivi le membre de l'UDPS qui disent non, voilà.
Félix Tshisekedi ou bien
personne, oui. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Félix, donc il n'y a pas, il y a pas de candidat commun.
Merci beaucoup, Alain. Alain, parce qu'il y a beaucoup, de gens qui attendent d'intervenir. On va retrouver quand même. Merci, d'avoir pensé à intervenir dans cette émission parce que connaissant bien les acteurs politiques, selon vous, vous ne pensez pas un seul instant que ces opposants puissent transcender leurs faiblesses afin d'accepter de se regarder en face. Tsingy, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour, Tsingy. Tsingy, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Tsingy. On va prendre Pichu, qui est à Kwilungongo. Pichu, bonjour.
Bonjour,
Vous avez la parole, Pichu.
Oui, en fait, je remercie d'abord pour cette occasion encore une fois de plus. Je voudrais d'abord remercier, soit féliciter l'opposition par rapport à leur démarche qui a abouti quand même à arracher cette victoire.
Est-ce que Pichu,
moi
est-ce
je dirais Pichu, c'est une partie.
Oui, Pichu. Pichu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter votre poste récepteur parce que ça fait un mauvais retour à l'antenne.
Oui, j'ai arrêté.
Allez-y.
Voilà, je dirais que c'est une partie de la victoire et non une victoire comme certaines le disent déjà, que ça soit du côté de la majorité et que ça soit du côté de l'opposition. Parce que aujourd'hui, à cette étape des démarches, moi je crois qu'il est un devoir impérieux à tous nos opposants. Je sais que parmi ces opposants, il y a des infiltrés, il y a certains qui sont là pour justement faire la distraction au niveau de l'opposition, mais qu'ils aient un objectif fixe pour ne pas décevoir, comme l'a dit M. Vital Kamer, que j'ai salué en passant. Comme il a dit que nous évitons de décevoir la population. Aujourd'hui, M. Gier, excusez-moi d'évoquer ce cas, il y a des problèmes sérieux qui rongent notre société, c'est-à-dire notre État. Il y a le problème de l'insécurité que Vital Kamer a évoqué là-bas à la radio, à l'Est comme au Centre. Il y a des problèmes sérieux qui peuvent surgir en tout moment, dans les Kassai par exemple. Et d'un autre côté, à l'Est, il y a des gens qui meurent jusqu'à aujourd'hui. Or, il nous faut un candidat commun. Donc, quand nous tournons tout autour de ce candidat commun, nous devons évoquer, avoir un candidat charismatique qui peut maîtriser toutes ces actions des rebelles, des histoires qui se créent de l'autre côté vers l'Est de la République. Alors, j'aurais souhaité personnellement que d'abord la CENI puisse publier la liste des candidats éligibles. Parce que si nous passons à ce débat sans pour autant connaître la base, nous ne savons pas qu'est-ce que la CENI peut faire. Oui. Ou qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de...
Merci beaucoup, Pichou. Alors, on revient à vous, Vital Caméré. C'est vrai, vous avez suivi les deux auditeurs. Alain qui dit, c'est un signal fort, le fait qu'un opposant ait félicité ou a encouragé les chefs de l'État d'avoir pris cette décision très courageuse, selon vos propos. Et puis, Pichou, qui parle d'un candidat charismatique. Merci. Que cela vous inspire.
Merci à Alain Bolodjoa, merci Ansingui. Je voudrais vous rappeler que je suis resté constant. Quand j'étais dans la majorité présidentielle, après San City, c'est moi, votre humble serviteur. Vous pouvez poser la question à Jean-Pierre Bemba. Vous pouvez poser la question à Robert Roy ou à Ondekane. Je me suis, ou à Roger Lumbala ou Mboussa Nyamwisi. Je me suis déplacé à l'aéroport pour accueillir nos amis pour faire partie de 1 plus 4. Je les ai félicités et je les ai rassurés. Donc, c'est pas la première fois que je l'ai fait. Aujourd'hui, nous devons noter quelque chose de très important que M. Alain Bolodjoa a dit. L'opposition, les débats aujourd'hui, c'est quoi? C'est la machine à voter. C'est les fichiers électoraux triffés de 6 millions ou de 10 millions de gens sans empreinte digitale. C'est le financement des élections. Si tout cela n'est pas fait, nous n'aurons pas des élections. C'est l'insécurité à l'Est et au centre. Quel est mon point de vue là-dessus? J'ai dit machine à voter. Le moment où on introduit cette machine, c'est un moment très suspect. On s'est posé la question pourquoi tout d'un coup on bascule des bulletins de vote qui sont prévus dans notre calendrier électoral et qui doivent intervenir à partir du mois de septembre, qui sont prévus dans la loi électorale puisqu'on écarte tout vote électronique avant la fin de cette mandature, et on se pose la question pourquoi la machine a voté. Maintenant, nous devons faire attention. Nous devons apprendre de l'histoire, nos erreurs. Si aujourd'hui nous restons dans une position figée, peut-être c'est là où on va trouver les pièges. Alors, quand vous êtes en face des adversaires politiques, ils vous tendent des pièges, il faut savoir comment les contourner. Ici, ils savent très bien que l'opposition va dire non à la machine à voter, nous la rejetons. Si on la rejette, nous voyons tout de suite ce qui va arriver. Ok, monsieur Nanga, dites-nous, comme on ne va plus utiliser la machine à voter, quand est-ce que nous pouvons raisonnablement faire les élections? On va nous parler du mois de juin 2019. Est-ce que nous avons fait l'affaire du peuple? Est-ce qu'il y a une solution intermédiaire? C'est pourquoi j'ai dit les cadres permanents de concertation entre la CENI et les parties prenantes aux élections doit être relancé. Puisque les élections, c'est avant tout une question de consensus. Nous avons démontré au président de la CENI que le temps qu'une personne passe devant la machine démontre qu'il nous faut 3 jours pour organiser les élections, ce qui est contraire à la loi, qui dit que le bureau de vote doit ouvrir à 6h pour fermer à 17h. On doit résoudre cette question. Ou on élague la machine, ou nous, partie prenante au processus électoral, nous disons, nous devons commander la machine, nous tous, chez les mêmes fabricants que nous allons choisir ensemble. Et cette machine, est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer sur le plan technologique de telle sorte qu'on ne passe pas autant de temps devant la machine? Mais comment on va apprendre à nos paysans, nos mamans, qui n'ont jamais vu même un téléphone portable à utiliser cette machine? C'est autant de questions que nous devons débattre. Mais nous ne devons pas ici allumer le feu. En ce qui concerne les fichiers électoraux, nous allons poser la question au président Nanga. Donnez-nous la cartographie de l'essaimage, de l'éparpillement de ces gens qui sont sans empreinte digitale. 3 solutions sont possibles. La première, si nous voyons que ces gens sont également répartis sur l'ensemble de toutes les circonscriptions électorales, nous pouvons proposer, si on n'arrive pas à les identifier, on ne puisse les élaguer. 2, nous pouvons dire, on prend 4 zones pilotes où il y a une forte concentration. Si on nous dit là-bas, il y a 10 000 de gens sans empreintes digitales, nous allons demander devant les églises ou les hôpitaux, amène-nous ne fût-ce qu'un échantillon de 2000 pour qu'on le voit. 3, nous pouvons arriver à une solution, mais celle-là elle sera coûteuse, où on doit encore réenrôler ces gens-là. Donc vous voyez, il y a toujours des solutions. En ce qui concerne l'argent, nous allons demander que l'on nous montre le plan de décaissement
Et qu'on nous rassure que la chaîne de financement Nanga est claire en disant que finalement la logistique, il va s'en passer de la MONUSCO.
C'est une très bonne chose.
Il y aura qui quelques avions et bon voilà, donc il pourrait assurer de manière un peu efficace.
Je l'ai suivi, il n'a pas dit ça, qu'il va se passer de toute aide extérieure. Il a dit nous avons acquis des avions. Et il le sait très bien, moi je parle, il est conscient que les avions qu'ils ont acquis ne sont pas suffisants pour un pays sous-continent comme la République démocratique du Congo. Donc ce qu'il faut faire, c'est de dire, oui, le gros lot, ça sera la République démocratique du Congo. Mais nous ne pouvons pas dire quand nous sommes incapables d'aboutir.
Donc il faut absolument un cadre de concertation.
Un cadre de concertation. En ce qui concerne l'insécurité, nous devons être très sérieux avec cette question. Puisqu'on peut toujours raviver les groupes armés et empêcher les élections de se tenir, où une grande partie de notre population est exclue à cela. Nous demandons à la MONUSCO, nous demandons au FRDC de mettre en place, comme on avait fait la brigade spéciale, dans les Kasaï et dans les Kivu, le Nord Katanga et dans l'Ituri, qu'il y ait une brigade mobile pour sécuriser nos populations. Là où les ADF Nalu ont tué les gens, ont coupé les têtes, là où il y a les Interahamwe, là où il y a les groupes armés qui continuent à brûler les villages. Comment voulez-vous qu'on puisse être rassuré qu'on aura les élections dans ces zones-là, le 23 décembre 2018. Gouverner, c'est prévoir. C'est pourquoi je dis, encore une fois, à M. Singhi et à Bolodjoa, je suis d'accord avec
un candidat charismatique.
Je suis d'accord avec un candidat charismatique. Oui, ça, ce sont des épithètes.
Est-ce que vous pensez que les candidats charismatiques sont charismatiques? Parmi vous trois, ou c'est...
Tous, ils sont charismatiques. Si vous prenez Jean-Pierre Bemba, il est charismatique. Félix Tshisekedi est charismatique. Moïse est charismatique. Fayoulou est charismatique. Matungulu est charismatique. Et donc, nous disons, ça, c'est un dénominateur commun de tout le monde. Si on prend l'intelligence, tous, ils sont intelligents. Alors, ce que nous disons, et j'ai beaucoup aimé, c'est le programme. L'Union pour la nation congolaise a son programme.
On reviendra sur votre programme. Je crois que le temps, peut-être, de laisser passer Tshisekedi. C'est lui qui a parlé avant Tshisekedi, c'est Pichu Pitou. Tshisekedi, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, Tshisekedi.
Bonjour, Radio Capi, et à notre cher auditeur, des auditeurs. Aussi, je remercie le président Vital Kamerhe.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Je dirais vraiment le président Vital Kamerhe, président de l'INC, en sa qualité de président de l'INC, il le sait très bien. Quand il parle de Corneille Nanga, c'est comme s'il oublie que la CENI, c'est une composition. Monsieur Vital Kamerhe, la CENI est composée de 13 membres. 6 de la majorité, 4 de l'opposition dont vous faites partie, 3 des sociétés civiles que vous connaissez très bien. Ça, c'est un. De 2, Monsieur Vital Kamerhe, cher grand frère, vous avez tant mené des marches, des décisions, des mouvements pour pouvoir amener les chefs de l'État à respecter la Constitution. Il y parlait dans un langage clair qu'il va respecter la Constitution. Finalement, il a respecté la Constitution. Il vous a donné son dauphin. C'est-à-dire, l'équipe à diverses majorités a déjà aligné son candidat. Ses joueurs sont sur le terrain. Où sont les joueurs et l'équipe de l'opposition? Vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout démontrer. Les fichiers électoraux et les machines à voter. Mais où est votre candidat? Vous allez dire qu'on attend d'abord le programme. Président Vital Kamerhe.
Oui, d'accord. Nous vous gardons en ligne parce que c'est une préoccupation directe.
Préoccupation directe, la réponse est directe. Je salue la franchise de mon ami, mais il se trompe, puisque Singhi, j'ai une mémoire d'éléphant et je veux lui démontrer par l'arithmétique, parce qu'on ne triche pas avec l'arithmétique. Aujourd'hui, hier vous disiez que la faiblesse de l'opposition, nous allons aligner plusieurs candidats. Faisons l'arithmétique aujourd'hui. Nous en avons 6. Et vous en avez combien? Plus de 15, monsieur. Donc, vous n'avez pas un seul dauphin, puisque Gizenga est de la majorité. Kinke est de la majorité. Et je peux allonger la liste, Mabaya, tout ça, c'est la majorité présidentielle. Donc, vous avez une équipe de joueurs qui sont là, et vous ne savez pas comment vous allez les classer. Mais nous avons des joueurs, et nous savons à quel poste chacun de nous va jouer. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas parlé des candidats uniques. Nous avons parlé des candidats communs. Ça ne veut pas dire que quand on va désigner Bemba ou Katumbi ou Félix ou Kamerhe ou Fayoulou ou Matungulu, les autres vont être des spectateurs. Non. Il y aura un numéro 9, il y aura un numéro 10. Donc chacun va jouer, y compris ceux qui n'ont pas brigué la magistrature suprême. Mais chez vous, ça restera toujours la pensée unique. Et je peux vous dire que le juge, ça sera le peuple. Et c'est pourquoi nous disons, si pour vous le programme ne compte pas, ce sont seulement les joueurs, donc la tactique... Et les coachs n'existent pas. Alors chez nous, la tactique et le programme sont plus importants d'ailleurs que les joueurs. Alors,
le cadre
et donc le programme, c'est pour répondre aux besoins, aux attentes de la population. Aujourd'hui, déçus par la gouvernance que nous venons de vivre, que nous continuons de vivre. Et nous devons tout faire parce que ce peuple va réellement nous porter au vu de notre programme à la tête de ce pays. Quand j'ai dit nous, nous parlons de l'opposition. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion.
Oui, en 2011, les chefs de l'État voulaient bien aider l'opposition pour trouver la candidature unique. Dans un point de presse, il avait souhaité, au cas où il y avait des difficultés. Alors nous, je l'ai dit, peut-être, bon, pas au nom de toute la radio, mais est-ce que si la radio a pu vous aider à faire des primaires pour avoir à présenter chacun de vous, en tout cas les six de l'opposition, présenter votre projet de société, est-ce que vous serez d'avis?
Absolument. Tout ce qui concerne les débats, les débats contradictoires ou complémentaires, je suis d'accord. Puisque quand il s'agit de l'opposition, ça sera un fair play, mais chacun va démontrer de quoi il est capable pour que l'opinion publique, les auditeurs,
telle initiative, par exemple, pourquoi ne pas prendre ça en compte?
Je crois que Mme Eve Bazaïba,
par exemple, ou ailleurs, on fait un débat ensemble avec les candidats.
Mme Eve Bazaïba avait déjà souligné ça. Elle avait dit la désignation du candidat comme un de l'opposition, ça ne sera pas dissentiment. Ça doit être un débat sur base du profil de chacun de nous et sur des questions importantes. Comment vous, Monsieur Kamede, Monsieur Félix Tshisekedi, Bemba et les autres, vous allez reconstruire l'État congolais, c'est-à-dire
résoudre l'armée, la police, la justice, politique, tout et économique.
Mais sans État, toutes ces questions-là vont ressurgir.
Voilà.
Comment vous allez résoudre le problème des jeunes, des femmes, le problème des étudiants, le problème de tous ces groupes armés, le problème des terres? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont une très mauvaise perception de la guerre? Tant qu'on n'aura pas une bonne réforme agraire à l'est du Congo, nous aurons un problème. Parce que la même terre est pour les éleveurs, pour les agriculteurs et pour les creuseurs du coltan et de l'or. Donc il y a des conflits, les vaches qui viennent brouter la récolte des agriculteurs, les creuseurs qui viennent transformer les champs en mine d'or. Et donc tout ça, c'est des problèmes. Voilà. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas gouverner le Congo.
On va accueillir deux autres auditeurs après. Tink est encore là en ligne.
Je suis là, je suis là.
Est-ce que vous êtes satisfait?
C'est-à-dire que je crois que le président Vital Kamerhe, il a bien dit, mais moi, mon problème, c'est quoi? Les programmes, tout le monde a un programme. Les programmes communs existent. Les programmes de tous les candidats, que ce soit de la majorité de l'opposition, c'est le bien-être des peuples congolais.
Ça, c'est pas un programme. Ça, c'est un objectif.
C'est que l'opposition doit aligner un candidat. Quand il a dit dans son introduction qu'il y a des Congolais en dehors de la République qui doivent entrer, comme le candidat de Moïse Katoum, qu'il a cité. Mais Moïse était à la base des décrispations de l'accord. Il avait dit, si cet accord ne sera pas signé à cause de moi, signer l'accord sans moi. Il avait montré déjà sa démocratie. Moi, je ne vois pas pourquoi le président Vital Kamerhe peut amener les gens à croire que c'est vraiment, il y a un problème. Le problème qui nous reste, c'est les candidats de l'opposition. S'agissant des nombres de votants.
Il aime beaucoup l'opposition,
Singuli. Si la CENI,
merci beaucoup,
pour un jour, trois minutes de vote, dans chaque bureau de vote, on va aligner trois machines. Une solution.
Oui, ça risque de prendre du temps. Merci beaucoup, Tsingy. On va gagner du temps en accueillant Benito qui est à Kinshasa et Adria Kananga. Benito, bonjour. Oui, vous avez la parole, Benito.
Hello. Je disais bonjour à vous et bonjour à aux auditeurs de Radio Capi et honorable président Vital Kamerhe, bonjour également.
Bonjour. Quelle est votre contribution, Benito?
Alors moi, je vais être très court parce que je me retrouve en ce moment même à mon lieu de travail. Monsieur Kamerhe, lors de votre congrès qui s'est tenu du 2 ou 4 août dernier, vous avez présenté en exclusivité votre programme de 20 piliers aux congressistes. Ma question est de savoir quand ce programme sera connu du grand public et quel est pour vous le ou les piliers phares de ce public. Mais j'aimerais aussi parler rapidement par rapport au celui qui est passé juste avant moi, monsieur Fili, je crois.
Et c'est Tinky, oui.
Le programme est très important. Il ne faut pas banaliser ce sujet-là. Dire aujourd'hui que le programme c'est bien, mais tout le monde a un programme. Non, tout le monde n'a pas un programme, justement. Nous voulons avoir ce programme. Et par là, je vais aussi demander à M. Kamerhe, où est-ce qu'on est-il de sa proposition qu'il a faite sur Twitter, où il demandait, il disait, hein, que nous allons à un débat.
Voilà, donc c'est de ça que nous avons parlé d'ailleurs avant que vous ne preniez la parole. Merci beaucoup, Benito. Alors, Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour, Adrien.
Oui, bonjour, cher Mimembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Quel est votre avis, Adrien?
Oui, j'aime tout à saluer l'initiative de l'opposition. Je leur demande donc de tirer énormément attention, de ne pas tomber dans des diversions, parce que aujourd'hui poser beaucoup de préalables, moi j'ai peur que la majorité ne puisse pas profiter derrière ce préalable-là pour tirer les choses en longueur. Mais ce que moi j'aurais souhaité auprès de l'opposition, c'est d'insister sur deux points, parce que ces deux points sont à mon humble avis majeurs et puis capitales. Le point sur la machine à voter, même si en suivant le président Kamere, il essaie un peu donc de se contredire pour dire que non, voilà, on risque de poser le problème de la machine à voter, on nous dirait que non, il faut aller jusqu'en 2019. Mais le président Kamere ne doit pas oublier que M. Nanga avait dit à l'opposition que s'il y a possibilité de chercher les techniciens en cette matière pour venir avec ces gens-là pour dire que non, voilà la faiblesse de telle ou telle autre machine. Mais jusqu'à présent, personne n'est venu avec un technicien. Et le deuxième point à insister, c'est le fichier électoral. Parce que lorsqu'il y a autant de gens comme ça, moi je ne donne pas vraiment trop d'assurance auprès de la CENI qui est en train de banaliser donc des histoires par rapport à la question des Katumbi et ceux-là qui sont en prison. Moi je pense que ce sont des questions qui devait être réglé une fois que l'opposition serait au pouvoir. Ça va donc se passer très vite. Et pour terminer, hier, moi je pense que les opposants doivent être au moins cette fois-ci francs, même si je suis en train de douter un tout petit peu pour voir comment est-ce que l'opposition pouvait se mettre d'accord. Parce que lorsque je prends ce qui était passé en 2011, ce monsieur, dans ce fait, Tshisekedi qui pouvait, à mon humble avis, faire l'unanimité, mais nous avions compris. Tout le monde se rappellera de la position du président Kamere, par exemple. Et moi, je me dis maintenant, avec cette génération, je suis en train de voir peut-être.
Voilà, merci beaucoup, Adrien. Alors, on va prendre Charles également. Charles, vous êtes avec nous?
Deux blocs.
Oui, Charles, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, JM.
Oui, quel est votre avis?
Merci beaucoup, Gilles, pour la parole que vous m'accordez. Je salue le président Vital Kamere.
Bonjour.
Et je tiens aussi à passant féliciter toute l'opposition, surtout les partis qui ont organisé des congrès, parce que nous savons que le pouvoir doit apprécier venir de la base. Par rapport à la thématique du jour, je crois que j'ai deux grandes préoccupations. La première est celle-ci. Je demande à M. Kamere, qui a été accusé de plusieurs mots, que cette fois-ci, il n'a plus droit à l'erreur. Parce que nous savons très bien que si on vote les candidats de la majorité, c'est-à-dire que nous acceptons que la majorité puisse continuer encore nous faire souffrir comme ils ont fait pendant plus de 17 ans. Deuxième préoccupation est celle-ci. Il y a eu des gens qui se sont fait enrôler, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont allés à l'armée. Ils vont devenir des policiers ou des militaires. C'est parmi les préoccupations qui doivent vraiment tenir compte de cette histoire-là.
Merci beaucoup.
Parce
merci
que
beaucoup.
Ces gens-là, ils se sont fait enrôler. Aujourd'hui, ils sont maintenant
donc vous, dans la. Vous rejoignez donc Adrien qui parlait tout à l'heure de la machine à voter et du fichier électoral qui doivent être passés au peigne fin. Merci beaucoup. Alors, réaction Vital Kamere.
Réaction rapide. Je commence par Adrien de Kananga, Charles de Kinshasa, pour terminer par Benito qui a parlé du programme, pour dire à Adrien de Kananga, peut-être qu'il ne m'a pas bien suivi. Je lui ai dit que du fait que le président Kabila ne soit pas candidat pour le moment, c'est un grand pas dans la bonne direction. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Il restait des questions majeures, parmi lesquelles, justement, j'ai parlé de la machine à voter, j'ai parlé du fichier électoral. Et j'ai attiré l'attention des uns et des autres que quand on fait la politique, on doit la faire avec l'intelligence et la sagesse. Et ça signifie, en d'autres termes, nous devons nous poser la question de savoir quelles sont les embûches qui sont en cours sur notre trajectoire. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, comme nous l'avons démontré à la CENI, que cette machine à voter, si on la maintient telle qu'elle est là, elle va compliquer les élections, puisque le jour dès l'élection, parce que c'est de 6h à 17h, nous aurons les deux tiers des électeurs qui seront devant les bureaux de vote, alors que la loi demande qu'on forme le bureau à 18h. Nous avons aussi souligné qu'en ce qui concerne les fichiers électoraux, et
ce fichier étriffé des gens sans empreinte digitale. Et j'ai indiqué de voies de solutions. En ce qui concerne les erreurs du passé, nous devons apprendre de nos erreurs. Mais j'étais très content qu'à quelqu'un, puisque beaucoup commencent toujours par 2011. Ils oublient qu'en 2006, Jean-Pierre Bemba était candidat et qu'il n'avait pas été soutenu par le président Tshisekedi d'heureuse mémoire. Donc personne n'est saint parmi nous.
Qui avait refusé bon nombre
personne n'est saint parmi nous. Et donc, moi je suis convaincu que notre génération, nous sommes entre nous, nous pouvons nous surpasser. En ce qui concerne le programme Benito, je voudrais vous dire que mon programme J'aime le Congo, nous aimons le Congo. C'est un programme pour un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique. Et nous avons dit que nous pouvons y parvenir. Nous sommes la deuxième forêt du monde. Nous sommes la plus grande réserve d'eau d'Afrique. 53% de toutes les eaux d'Afrique. 13% de toutes les eaux du monde. Mais quel beau pays. Nous avons une réserve énergétique. Avec les dernières études, nous étions à 100 000 mégawatts. Nous sommes passés à 140 000 mégawatts. Donc le Congo peut éclairer l'ensemble de l'Afrique, l'Europe du Midi et une partie de l'Asie. Mais quel pays? Où est le courant chez nous? Où est l'eau dans nos maisons? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui 76 000 villages du Congo ont un potentiel chacun pour s'industrialiser, pour donner l'électricité à tout le monde? Ce sont les études du PNUD, ce n'est pas moi. Est-ce que vous savez que les terres du Congo, 120 millions d'hectares, les terres arables, parmi lesquelles 80 millions accessibles tout de suite, ces terres peuvent nourrir 2 milliards d'individus. Mais où est la nourriture? Nous produisons ce que nous ne mangeons pas et nous mangeons ce que nous produisons pas. Titre d'exemple, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, 97% des importations et 3% seulement d'exportation. Alors qu'il est démontré que tout ce que nous importons des pays voisins, nous pouvons les produire chez nous à meilleur prix. Quand nous partons du principe de Ricardo, la loi des avantages comparatifs. Donc ce qui manque, c'est un leadership exemplaire.
C'est pourquoi, vous promettez de mobiliser 114 milliards de dollars pour le budget.
Un scandale minier.
114 milliards.
10 minerais du Congo à eux seuls, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Université de Columbia des États-Unis d'Amérique. Ça représente 24 000 milliards de dollars. Donc vous prenez le PIB des États-Unis d'Amérique, additionné au PIB de l'Europe occidentale, ça fait 22 000 milliards. Donc nous sommes au-delà. Arabie Saoudite, 18 000 milliards. Nous sommes au-delà, mais nous sommes les plus pauvres de l'humanité. Nous disons 114 milliards de dollars. C'est pour.
Est-ce possible? C'est pas possible. Un rêve.
C'est pas un rêve, je peux vous le démontrer. D'ailleurs, la première année, le président de la FEC, Yuma, qui est président de la GECAMINE, a dit que 20 milliards de l'argent de l'État prend des voies informelles. Luzolo Bambi, qui est chargé de lutter contre la corruption, il a dit 15 milliards. Alors prenons la moyenne, 18 milliards. Plus ce que l'on paie à aujourd'hui avoir avec le budget actuel. Nous sommes à 30 milliards. Et si nous élargissons l'assiette fiscale, nous sommes à 40 milliards. Ce n'est pas un leurre. Et nous disons ça, c'est la première année seulement. Et nous avons démontré comment nous allons répartir cet argent. Qu'est-ce que nous allons faire de cet argent? La refondation de l'État, c'est-à-dire l'armée républicaine, où nous aurons des militaires qui seront pris en charge. Les policiers, la justice qui sera là avec des magistrats responsables qui seront sanctionnés s'ils ne rendent pas correctement la justice. Si vous ne réhabilitez pas l'enseignant, vous ne réhabilitez pas la fonction publique. Est-ce que vous pouvez parler de l'État? Aujourd'hui, un enseignant est capable de manger du 1er au 30, même pendant une semaine. Alors qu'en 1960...
Ça, c'est un état des lieux qui est connu. Ce n'est pas un secret, c'est connu.
Mais c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Mais quand vous voulez faire un programme, vous faites quoi? Vous faites d'abord l'état des lieux, les diagnostics, pour administrer les médicaments. C'est comme le médecin. C'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, nous allons construire non seulement l'État, le fonctionnement des institutions. Nous allons, nous, quand nous prenons le pouvoir à travers le peuple, décréter la gratuité effectivement et effective de l'enseignement primaire.
Comme
nous
disposé dans la Constitution.
Nous allons construire 1000 écoles et 1000 écoles professionnelles parce que nos enfants ne doivent pas tous être destinés à faire les universités. Et nous allons faire en sorte que la tension salariale entre les techniciens A2 et les ingénieurs civils soit la plus faible possible.
Raison pour laquelle vous avez aligné plus de 1000 candidats à la députation provinciale et plusieurs milliers de candidats également à la députation nationale.
480 exactement à la députation nationale et 1000 à la députation provinciale. Et moi-même, je suis candidat à la présidence de la République. Donc, quand nous disons que nous allons reconstruire ce pays, nous disons 37 680 logements sociaux. et on peut démontrer d'où viendra l'argent. Quand nous disons que ce Congo peut jouer un grand rôle, c'est-à-dire nous allons construire une route qui partira de Cabinda d'Angola, ça passe par Moanda, ça traverse le Bas-Congo, Congo central, ça traverse l'équateur et Bandundu, ça prend la province orientale, ça va s'échouer à la frontière avec l'Ouganda. Mmh. Puisqu'à partir de l'Ouganda jusqu'à Mombasa, à l'océan Indien, la route est asphaltée. Nous allons construire notre corridor qui partirait de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, ça traverse tous les Dekassai, le Katanga, et ça va jusqu'à Dar es Salaam. Nous partirons là où se sont arrêtés les gens de la SADC, c'est-à-dire à Kasumbalesa. Nous allons remonter avec la route jusqu'au Caire. Et si nous partons de Nouakchott, nous relions le Maroc et le Caire et la Libye, est-ce que l'Afrique à ce moment-là ne peut pas aller dans la mondialisation de la tête haute? Voilà la globalisation. Voilà la mondialisation à visage humain. Les Africains doivent eux-mêmes se mettre en ordre de bataille pour aller vers cette mondialisation. Et je voudrais dire ici, pour nous, l'alternance qui est l'objectif, nous ne pouvions y penser que si le président actuel n'était pas candidat. Il n'est pas candidat, donc les autres questions, nous pouvons les discuter et les résoudre entre hommes. Et nous ne devons pas confondre alternance et vengeance. Voilà. Si nous disons maintenant, le président de la République n'est plus candidat et nous continuons à nous tromper, donc passer notre temps à menacer les gens.
Donc il est plus que périlleux de pouvoir organiser ces débats ou encore des primaires au niveau de l'opposition.
Absolument.
Chacun peut de son programme.
Je suis d'accord avec ça. Je serai d'accord avec tout autre mécanisme qui sera proposé.
Radio parole aux auditeurs. N'hésitez pas de vous aider.
Alors, si vous nous invitez, nous allons vous remercier. Alors, il faudra poser la question aux autres collègues. Je crois que tous ne diront pas non. Parce que nous avons déjà l'habitude de discuter entre nous au niveau de l'opposition. Nous, ce n'est pas la pensée unique.
Et au cas où vos préalables n'étaient pas pris en compte par la CENI?
Non, il ne faut pas dire en termes de préalables. Ce sont des problèmes très sérieux.
Et ça sera la conclusion.
Et la CENI a reconnu que le problème de la machine à voter, c'est un problème qu'il faudra qu'on continue à discuter pour trouver un atterrissage. La CENI a reconnu que les fichiers électoraux à 6 millions, même si nous parlons de 10 millions de gens sans empreinte digitale, la CENI a reconnu que le problème de l'insécurité,
c'est un problème. Les empreintes digitales ne constituent pas un seul élément d'identification.
Ah oui, mais les l'iris aussi.
Les yeux, les visages.
Mais quand vous dites que vous appelez André, s'il n'y a pas les l'iris, s'il n'y a pas l'empreinte digitale, on ne saura pas que vous appelez André. Donc je voudrais dire au peuple congolais de croire en son avenir. C'est ça mon message de la fin. Parce que nous sommes porteurs d'un programme justement qui va faire de ce peuple, en lui parlant dans la langue qu'elle entend. Que ce soit les Tchiluba, les Kikongo, les Lingala ou les Swahili, le peuple va comprendre qu'il doit être acteur de son propre changement. C'est lui qui vous dira, qui viendra vous changer, c'est un menteur. C'est vous qui devez adhérer à un programme et vous en approprier. Quand nous disons que nous allons construire 1900 ponts, est-ce que vous savez qu'il y a 1997 ponts détruits en République démocratique du Congo? Quand nous disons que nous ferons 28 000 km de routes asphaltées, quand nous disons que nous ferons 380...
Pourvu que ça ne reste pas des théories.
Non, ce ne sont pas des théories. Je peux vous donner beaucoup toute la carte ferroviaire et même
voilà,
fluviale.
Mais l'état est court. Le jour où vous allez déballer.
Mais pour le programme, il sera présenté la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Et la table ronde entre Jean-Pierre Bemba, vous, Félix, c'est que ça intervient quand?
Oui, là, nous sommes en permanence en discussion et il n'y a pas d'exclusivité. Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Kamere, et Katumbi et associé et tous les autres, Félix Batongoulou et Fayoulou. Moi, je voudrais l'inclusivité. Tout comme pour les élections et tout comme pour les choix des candidats communs de l'opposition. Et je me plierai au choix de la majorité.
Merci beaucoup, Vital Kamere, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir passé 57 minutes interactives avec nous. Et nous comptons vous revoir très prochainement. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. L'actualité se poursuit sur Radio Capi, où vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.